La vie culturelle avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Le procès sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy s'est ouvert le 6 janvier dernier et ne prendra fin que le 10 avril. Un procès de 3 mois pour une affaire hors norme. Outre l'ancien président de la République, 3 ex-ministres, Brice Hortefeux, Claude Guéant et Éric Woerth, sont également jugés dans cette affaire. Nicolas Sarkozy et ses collaborateurs sont accusés de financement illégal de sa campagne de 2007 par la Libye du dictateur Muammar Kadhafi. Une intrigue extrêmement complexe que des journalistes de Mediapart se sont attelé à démêler. Personne n'y comprend rien, c'est le titre provocateur d'un film documentaire réalisé sur l'affaire par Yannick Kingoat. Le film a été projeté au cinéaste le mercredi 25 février en présence d'Antione Rouget, journaliste à Mediapart. Bonjour Antione Rouget.
Bonjour.
Alors on va essayer de comprendre un peu cette intrigue digne d'un roman. De quoi Nicolas Sarkozy et ses collaborateurs sont soupçonnés exactement ?
Alors pour résumer, ils sont aujourd'hui soupçonnés d'être au cœur d'un pacte de corruption avec le dictateur libyen Muammar Kadhafi, c'est-à-dire d'avoir bénéficié de financements libyens occultes provenant de l'État libyen et qui a été versé par argent qui a été versé par le plus proche entourage de Muammar Kadhafi, et d'avoir en contrepartie de cet argent et offert à la dictature et à ce régime de nombreux avantages permettant à Muammar Kadhafi de revenir sur le devant de la scène diplomatique. Il faut savoir qu'on est dans des années où le dictateur libyen était marginalisé dans le concert des nations, et la France de Nicolas Sarkozy a permis par un certain nombre d'actions à Muammar Kadhafi de revenir sur le devant de la scène, et donc ses contreparties, ça va être par exemple la réception officielle de Muammar Kadhafi à Paris comme un chef d'État de premier rang, mais ça va être aussi par exemple l'octroi de matériel de surveillance qui a été ensuite utilisé pour réprimer la population libyenne, ou par exemple des promesses en matière de nucléaire civil. Et donc dans cette lune de miel entre Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi, on voit que d'un côté des versements ont été opérés par des proches du dictateur libyen au profit de l'entourage de Nicolas Sarkozy, et que dans le même mouvement, des contreparties et des avantages ont été accordés. Et ça, en droit, ça peut s'appeler un pacte de corruption, et c'est là-dessus que est actuellement, sur cette infraction-là, sur délit-là, qu'est actuellement jugé Nicolas Sarkozy et son entourage.
Il y a une affaire d'extradition de terroristes aussi.
Oui, on s'est rendu compte au cours des investigations que l'un des plus proches collaborateurs de Muammar Kadhafi, qui s'appelle Abdallah Senoussi, qui est son beau-frère et qui est très important dans le dispositif étatique libyen parce qu'il était le chef des services secrets libyens, et c'est vraiment le numéro 2 du régime, et l'homme qui a à la fois organisé un certain nombre de versements d'argent et qui a aussi bénéficié des promesses les plus importantes de la part de la France de Nicolas Sarkozy, à savoir la levée d'un mandat d'arrêt international. Abdallah Senoussi, c'est un terroriste jugé définitivement comme tel par la justice française parce qu'il est le commanditaire d'un attentat qui est l'attentat du DC-10 UTA qui a causé la mort de plus d'une centaine de personnes et des dizaines de ressortissants français. Donc c'est un avion qui a été abattu par le régime libyen dans le cadre de politique de terrorisme d'État, en fait, qui était l'un des volets criminels et l'un des aspects criminels du régime de Muammar Kadhafi. Et Abdallah Senoussi, en contrepartie du versement d'argent, de l'argent qu'on a retrouvé, y compris des flux bancaires, a négocié la possibilité de voir son mandat d'arrêt international levé, parce qu'il voulait se déplacer, notamment parce qu'il était atteint d'un cancer et qu'il voulait se faire soigner en France. Et donc il y a eu des démarches qui ont été entreprises, qui fort heureusement n'ont pas été jusqu'au bout, mais qui ont visé pendant plusieurs mois à essayer d'obtenir la levée de ce mandat d'arrêt international pour Abdallah Senoussi.
Et alors comment on en est arrivé à toute cette intrigue, en fait ? D'où a démarré l'enquête ?
Alors, le point de départ de l'enquête de Mediapart, c'est en 2011, quand mes collègues Fabrice Arfi et Karl Lasquet récupèrent par une source anonyme à l'étranger un disque dur qui contient des milliers de fichiers appartenant à un intermédiaire qui s'appelle Ziad Takieddine, qui est un franco-libanais, un homme d'affaires, très installé en France, introduit auprès des réseaux de la droite, d'abord chiracienne, puis sarkozyste. La mission d'un intermédiaire, c'est finalement de négocier des contrats occultes, notamment autour de, par exemple, d'opérations liées à la livraison d'armes, entre des responsables politiques français et étrangers. Il était par exemple au cœur des relations entre la France et l'Arabie Saoudite, et on sait que ces contrats d'armement et ces négociations secrètes donnent souvent lieu en fait au versement de commissions, et ces intermédiaires-là négocient en fait le paiement de commissions à d'autres intermédiaires occultes, permettant de nouer des relations souterraines entre les États. Et donc Ziad Takieddine, il a cette expérience-là, il est actif en France depuis les années 90, et donc en 2011 mes collègues commence une série de révélations autour des documents Takieddine qui viennent illustrer d'un nouveau jour l'état des relations entre la France et un certain nombre de pays étrangers, et notamment sur les dernières années autour du clan Sarkozy, parce que donc Ziad Takieddine a été actionné par l'entourage de Nicolas Sarkozy autour des années 2005-2006 pour justement négocier un certain nombre de contrats, notamment avec le régime libyen de Muammar Kadhafi. Donc c'est le point de départ de cette enquête en 2011. Et ensuite, tel un puzzle, on va découvrir en fait quelle est l'étendue de ce soupçon libyen, avec notamment un événement majeur qui est en avril 2012, la publication par Mediapart, la révélation d'une note services libyens avec faisant état d'une promesse de financement de 50 millions d'euros pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007.
Alors, Nicolas Sarkozy est présumé innocent. Est-ce que ça veut dire que dans toute cette masse de documentation que vous avez évoquée, il n'y a pas de quoi constituer des preuves à proprement parler ?
La présomption d'innocence, c'est un concept en droit qui est extrêmement important, qui veut que toute personne qui est jugée en France est présumée innocente. Ça veut dire que l'accusation doit faire la démonstration de la culpabilité de Nicolas Sarkozy pour les délits pour lesquels il est jugé, notamment ce pacte de corruption, et ensuite un tribunal, au terme d'un procès équitable, ça veut dire un procès dans lequel sont mis au centre des débats des éléments, des documents, des témoignages, et ensuite auxquels répond Nicolas Sarkozy et son entourage, et ensuite ses avocats, eh bien ça c'est le principe de présomption d'innocence auquel a droit Nicolas Sarkozy comme tout prévenu dans un procès équitable en France. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments dans cette affaire, à savoir que il y a eu des promesses de financement et des versements à l'entourage de Nicolas Sarkozy dans ces années 2005 et 2007, qui se sont accompagnées de promesses d'avantages auprès du régime libyen de Muammar Kadhafi. Après, est-ce qu'un tribunal, au regard de ces éléments-là, décidera si Nicolas Sarkozy est coupable, si c'est le chef finalement de cette opération et s'il y a suffisamment de preuves pour le dire, eh bien ça appartient à la justice. Et il est très important de ne jamais confondre les rôles en fait. Les journalistes que nous sommes là pour apporter des faits, des informations, et tout ce que nous avons raconté pendant toutes ces années et qui fait aujourd'hui l'objet d'un film est parfaitement exact, prouvé, documenté, et d'ailleurs on a fait l'objet de poursuites, on n'a jamais été condamné, ni pour diffamation, ni pour faux, ni pour atteinte à la présomption d'innocence. Et par contre, il est tout à fait légitime aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy de se défendre et de rappeler sa présomption d'innocence dès lors qu'il n'a pas été condamné par un tribunal.
Et alors justement, sur ce film qui est projeté au cinéaste le 25 février, personne n'y comprend rien. Alors pourquoi ce titre ?
Eh bien, personne n'y comprend rien, c'est un clin d'œil en fait, c'est une déclaration de Nicolas Sarkozy lui-même. Dans le Figaro magazine, lorsqu'il a été interrogé sur cette affaire, eh bien, il a lâché cette phrase, ce slogan en fait, qui devient le titre de notre film aujourd'hui, et qui visait à faire passer un message sous-jacent, qui a été un petit peu le narratif, en fait, le récit de Nicolas Sarkozy et son entourage pendant toutes ces années, qui était de dire mais en fait c'est une affaire lointaine, personne n'y comprend rien, il n'y a pas d'éléments, et qui était une forme de mise à distance pour le public de cette affaire, parce que nous on a un regret autour de ce scandale en fait, c'est que pendant toutes ces années on en a très peu entendu parler en dehors des colonnes de Mediapart. Nous ça représente des centaines d'heures de travail, plus de 150 enquêtes publiées pendant plus d'une décennie, énormément de moyens, parce qu'on a considéré que ce qui révélait cette affaire était gravissime du point de vue de la démocratie en France.
Mais alors pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante cette affaire? Qu'est-ce qu'elle a d'inédit? Parce que la corruption c'est pas nouveau.
Non, mais la corruption avec un régime criminel autour d'une campagne présidentielle remportée par Nicolas Sarkozy, eh bien, ça pose des questions vertigineuses à la démocratie française. En fait, qu'est-ce qui a permis cela? Pourquoi les institutions, les organes de contrôle, etc., n'ont rien vu pendant toutes ces années? Pourquoi il a fallu un petit journal indépendant, finalement, pour venir faire dérailler cette machination? Parce qu'on sait bien que sans le travail de Mediapart, finalement, on n'aurait jamais, sans doute jamais rien su en fait de cette opération. Et puis, il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences, on en parlait tout à l'heure, humaines, par exemple, sur la possibilité de lever le mandat d'arrêt international et de blanchir un terroriste reconnu comme tel par la justice française. Mais il y a aussi des conséquences géopolitiques énormes avec le déclenchement ensuite d'une guerre dans des conditions très hasardeuses, du déclenchement d'une guerre en Libye à partir de 2011 par la présidence de Nicolas Sarkozy, sans respect du mandat confié par les Nations Unies, avec aujourd'hui une déstabilisation de cette partie du monde. Il faut savoir les conséquences qu'ont engendré la chute du régime de Muammar Kadhafi dans ces conditions-là, en tout cas sur les flux migratoires qui arrivent vers l'Europe, mais aussi par exemple sur la diffusion de toutes les réserves d'armes du régime libyen vers les groupes djihadistes au Sahel, qui sont aujourd'hui extrêmement actifs et qui ont énormément d'armes, de munitions, etc., qui proviennent de Libye. Donc ces enjeux-là, ils ont des conséquences terribles. C'est tout sauf une affaire banale ou ordinaire.
Ce que vous trouvez tout aussi extraordinaire, du coup, c'est que la presse ne se soit pas assez emparée du sujet. Donc ça fait partie des enjeux de ce film, personne n'y comprend rien, de rendre l'affaire accessible au public.
Il y a eu un décalage en fait entre la gravité de cette affaire et la manière dont elle a été traitée médiatiquement. Ça s'explique par des intérêts dans certains médias privés liés à Nicolas Sarkozy et son entourage. Ça c'est un fait établi. Il y a aussi un problème en France de concentration des médias privés, en tout cas nationaux, aux mains de quelques milliardaires qui sont eux-mêmes dans l'entourage de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy lui-même est membre du conseil d'administration et conseil de surveillance du groupe Lagardère, qui est propriétaire d'un certain nombre de médias, lesquels ont fait des campagnes en fait contre les révélations de Mediapart dans l'affaire des financements libyens. Mais au-delà de ça, il y a eu un désintérêt aussi parce que cette affaire était jugée lointaine, complexe, peut-être trop grosse pour être vraie, etc. Et donc c'est vrai que à l'occasion de l'ouverture du procès, eh bien on s'est dit que c'était le moment enfin de populariser cette affaire et de le faire au moyen d'un médias en fait qui n'est pas habituel pour Mediapart, qui est le cinéma. Parce que le cinéma, eh bien, ça permet aussi d'aller à la rencontre du public comme on le fait ce soir. Ça permet ensuite d'avoir des échanges, de travailler avec le réseau des cinémas indépendants et de raconter différemment cette histoire aussi. Et puis un réalisateur qui, lui, a su, du coup, en 1h40, eh bien, compiler les éléments pour les rendre enfin lisibles à l'aune de ce qu'est cette affaire en 2025.
Alors, dernière question en deux temps. On imagine que Mediapart suit activement le procès en cours. Alors d'abord, est-ce que certains éléments du procès ont pu vous surprendre, vous interroger par rapport aux informations collectées par Mediapart ? Est-ce que certaines de vos hypothèses se sont vues modifiées, contredites ou confortées ? Et dans un deuxième temps, la défense de Nicolas Sarkozy, elle est basée sur le déni et l'ignorance. Il n'aurait pas touché un centime libyen, il n'aurait rien su des agissements de ses plus proches collaborateurs. Est-ce que ça vous semble une défense possible à tenir face à la montagne de documents que contient ce dossier ?
Je vais répondre par votre deuxième partie de question d'abord. Moi, je trouve qu'il y a, et c'est ce qu'on montre le début du procès, c'est qu'il y a, un fossé qui est trop grand pour être tenu dans la défense de Nicolas Sarkozy entre sa parole médiatique qu'il continue à avoir hein, à travers ses avocats aujourd'hui encore, qui est de dire en fait il n'y a rien dans cette affaire, et les éléments qui sont débattus à l'audience. Et donc ça paraît compliqué comme ligne de défense, en tout cas à tenir pour lui et même pour ses proches. En fait, quand on voit sur 3 mois à l'audience au tribunal de Paris s'exposer un certain nombre de documents, de rendez-vous secrets, de flux bancaires, de promesses de contrepartie, etc. En fait, on ne peut pas dire que ce procès est basé sur du vide. En tout cas, c'est déjà la victoire de ce procès. Et évidemment, pour nous, c'était déjà une certitude, mais le parquet national financier, le tribunal de Paris n'audience pas, ne bloque pas 3 mois d'audience et ne met pas en cause un ancien président de la République sur du vent. Voilà. Et il y a des documents, il y a des éléments, donc au moins ça permet ça. Et ensuite, pour rejoindre la première partie de votre question, c'est vrai qu'un procès, eh bien, c'est un organisme vivant par ailleurs. En fait, on ne sait pas ce qui va s'y passer. On ne sait pas comment vont réagir les protagonistes, on ne peut pas le déterminer à l'avance. Il y a un dossier au départ avec des éléments, et ensuite, eh bien, l'ensemble des protagonistes sont interrogés à la barre du tribunal. Et là, moi ma surprise, c'est une forme d'impréparation en fait. Moi, j'étais au regard des enjeux, de la gravité de cette affaire, et y compris...
La préparation de la part de Nicolas Sarkozy et de ses collaborateurs, vous voulez dire.
Voilà, c'est ça. En fait, au regard de la gravité des accusations auxquelles ils doivent répondre, et y compris des peines qui peuvent être prononcées. Hein. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison, quand même, dans cette affaire. Et Nicolas Sarkozy a déjà été condamné dans 2 affaires récentes. Hein. Ces dernières années, il a passé beaucoup de temps au tribunal. Et c'est vrai que je pensais qu'il adopterait un autre système de défense, lui et son entourage. Et on se rend compte que, en fait, comme pendant la phase d'enquête, à la barre du tribunal, il y a des réponses assez légères, un peu hasardeuses, qui sont très éloignées des éléments factuels. Donc moi, je m'attendais quand même peut-être à voir arriver un autre système de défense, d'autres explications, des témoins. Et c'est pas du tout le cas, donc je suis assez perplexe jusqu'à présent, mais on n'est qu'à la mi-temps du procès. Donc on verra d'ici le mois d'avril, au moment de la clôture et des plaidoiries de la défense, ce qu'il advient. Moi, par nature, je suis vraiment extrêmement prudent. On est journaliste, donc on documente le présent et je me risque jamais à essayer de deviner ce qu'il adviendra, en fait.
Je vous remercie, Antoine Rouget, journaliste à Mediapart. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir le film Personne n'y comprend rien, une bande dessinée est également disponible pour comprendre l'affaire des financements libyens de la campagne de l'ancien président Sarkozy-Kadhafi, des billets et des bombes, par Benoît Colomba, Michel Desprax, Élodie Guégan et Thierry Chavant aux éditions Delcourt. Je vous conseille également la vidéo d'Hugo Décrypte sur YouTube sur le sujet. Il y interview Fabrice Arfi, le journaliste de Mediapart, à partir duquel tout est parti. Merci beaucoup, Antoine Rouget.
Merci à vous.
La vie culturelle avec Charlie Pless sur Radio Alpa.